Radio Prague, les informations. L'accord de coalition gouvernementale pourrait être prêt d'ici 2 semaines. Andrei Babiš achète Radio Impulse et Roman Kreuziger devient le roi du cyclisme. Pour la 4e fois, ce sont les principaux titres de ce bulletin d'information. La version finale de l'accord de coalition entre la social-démocratie, le mouvement de l'action des citoyens mécontents, ANO, et le parti chrétien-démocrate pourrait être prête d'ici 2 semaines, selon la vice-présidente social-démocrate, Alena Gajduszkova. La direction de sa formation devrait présenter ce week-end une ébauche de ce document aux 2 autres partis. Après des rencontres bilatérales, les 3 mouvements politiques ont entamé lundi les négociations tripartites. Les questions des impôts et de la loi de restitution des biens confisqués aux églises sont au cœur des discussions. Sur ce dernier sujet, la social-démocratie et le mouvement ANO, les 2 principales forces à la Chambre des députés, envisagent de rencontrer des représentants de différents cultes dans 2 semaines également. Ancien journaliste, éditorialiste, diplomate, sénateur, social-démocrate et vice-président du gouvernement, Egor Lansky est décédé lundi à l'âge de 79 ans. Directeur de l'hôpital où il était soigné, Ivan Yejabek a confirmé cette information à l'agence de presse CTK. Egon Lansky a été un opposant actif au régime communiste et une voix connue des auditeurs de Radio Free Europe dans la période qui a précédé la révolution de velours en novembre 1989. Son engagement politique a culminé avec sa participation au gouvernement de Miloš Zeman, l'actuel président de la République. Pour sa première apparition publique depuis sa blessure au genou, ce même Miloš Zeman, désormais chef de l'État donc, a nommé Radovan Suchanek au poste de juge au sein de la Cour constitutionnelle, institution siégeant à Brno et chargée de vérifier la constitutionnalité des lois et de certaines décisions juridiques. La cérémonie a eu lieu à la résidence présidentielle de Lani, ancien juriste au sein de la formation social-démocrate. Radovan Suchanek devient à 40 ans le plus jeune juge constitutionnel. Il a juré de ne pas travailler sur des dossiers pour lesquels il pourrait être accusé de partialité. La société d'industrie chimique et agroalimentaire Agroferte du milliardaire Andrei Babiš, actuel président du mouvement politique ANO, a décidé d'acheter la société Lambda, qui gère notamment Radio Impulse, l'une des stations de radio les plus écoutées en République tchèque. Les 2 entreprises ont conclu ce lundi un contrat relatif à un accord futur qui doit encore être approuvé par le bureau de la concurrence et le conseil de la radiodiffusion et de la télévision. Rappelons qu'Andrei Babiš a récemment investi dans le monde des médias avec l'achat de l'hebdomadaire gratuit 5+2. Cette année, il a également acquis la maison d'édition Mafra qui publie les principaux quotidiens tchèques Mlada Fronta Dnes et Lidové Noviny. On passe à la musique. Un long cortège a accompagné la dépouille mortelle de Pavel Bobek, ancien chanteur de pop et de country très populaire, vers le crématorium de Strašnice, un quartier pragois. La cérémonie a été suivie d'applaudissements prolongés. Pavel Bobek est décédé lundi 20 novembre à 76 ans des suites d'une longue maladie. Architecte de formation, il avait été introduit au Hall of Fame de la musique tchèque en mars dernier lors de la cérémonie de la remise des prix des anges, équivalent des victoires de la musique en France. Sport à présent et cyclisme. Ce mardi, les résultats de l'enquête Roi du cyclisme ont été révélés au monastère de Bjeznov à Prague. Roman Kreuziger, 5e au Tour de France l'été dernier, le meilleur résultat de l'histoire du cyclisme tchèque, a été récompensé pour la 4e fois. Outre cela, il a remporté la prestigieuse course néerlandaise Amstel Gold Race. Il a également terminé 3e au Tour suisse et au classique de Saint-Sébastien cette année, déjà sacré en 2004, 2008 et 2009, Roman Kreuziger, actuellement aux îles Canaries avec son équipe, ne pourra assister à la cérémonie de ce mardi soir. On termine avec la météo. Ce mardi, fête de tous les Arthur, l'ensemble du territoire reste partiellement couvert avec quelques éclaircies. En baisse, les températures se stabilisent entre moins 1 et 3 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant avec Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Pierre Maignan pour son bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, pour la première fois depuis les élections du mois d'octobre, les députés tchèques se sont réunis en séance inaugurale à la Chambre des députés ce lundi. Nous allons revenir sur cet événement dans la première partie de notre émission. Puis nous évoquerons un sujet plus social, à savoir le lancement d'un wagon favorisant la communication ou pas dans le métro pragois. Ce sera dans quelques instants avec Michaela Mezelakova. Puis dans la seconde partie de notre émission, nous allons retrouver la rubrique Panorama qui nous offre cette fois-ci la première partie de l'entretien très philosophique réalisé avec Dominique Houdard, un des meilleurs marionnettistes français présent à Prague vendredi dernier. Vous écoutez Radio Prague, très bonne écoute à tous. Les députés tchèques se sont réunis en séance inaugurale à la Chambre des députés ce lundi, pour la première fois depuis les élections d'octobre dernier. La social-démocratie, ČSSD, le mouvement ANO et le parti chrétien-démocrate KDU-ČSL, les partis qui devraient former une coalition gouvernementale tripartite, se sont également réunis ce lundi afin de commencer à définir les grands traits de leur programme commun. Les députés tchèques ont prêté serment devant la Chambre basse du Parlement après avoir reçu l'attestation de leur élection au poste de député. Les 200 sièges de la Chambre des députés se partagent entre 7 partis, un chiffre record. Les nouveaux parlementaires, amenés à fréquenter le bâtiment de la rue Sniemovny, ont été initiés au système de vote. Car selon le chancelier de la Chambre des députés, Petr Kinstetl, même les plus chevronnés auraient tendance à se tromper en votant. Petr Kinstetl a évoqué certains éléments pratiques, tels que la possibilité pour les députés n'habitant pas Prague d'occuper des logements de fonction ou de trouver leur propre appartement en utilisant l'indemnité versée par l'État et dont le montant s'élève à 17 000 couronnes par mois, soit 680 euros. Durant les 2 derniers mois, la Chambre des députés n'a pas pris la poussière, comme l'a aussi expliqué Petr Kinstetl.
Okamžitě po skončení zasedání poslanecké sněmovny jsme se...
Tout de suite après la dernière séance à la Chambre des députés, nous nous sommes mis au travail. Nous avons repeint les salles, tous les espaces ont été nettoyés. La chaufferie, qui était dans un état de délabrement, a été rénovée, ainsi que les installations sanitaires. Et la grande salle de réunion a également été rénovée en raison des dommages causés par l'usure du matériel pendant les 4 dernières années. Donc il y avait beaucoup de travail.
La Chambre des députés sera dirigée par son ancienne présidente, Miroslava Němcová, de ODS, jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Si Miroslava Němcová n'avait pas été réélue députée, c'est le plus ancien des députés qui aurait repris le flambeau. À propos du déroulement de cette première séance inaugurale, dont la durée n'a pas dépassé 2 heures, Petr Kinstetl raconte.
Des propositions sont émises quant au nom des candidats de la commission électorale et du comité des mandats et des immunités. Les députés disposent d'une échéance de 24 heures pour soumettre les noms des candidats à la présidence de la Chambre des députés, à savoir le nom du président et des 4 vice-présidents de la Chambre. La réunion se poursuivra très probablement ce mercredi.
Après s'être réunis pour la première fois tous ensemble ce lundi également, les sociodémocrates, le mouvement ANO et les chrétiens-démocrates se sont en effet mis d'accord sur une présidence de la Chambre des députés composée de 5 membres. Ce mercredi aura lieu le vote qui décidera enfin de la composition de cette présidence. Les 3 partis ont fait savoir qu'ils soutiendront les candidats qu'ils ont choisis ensemble. Ainsi, Jan Hamáček du Parti social-démocrate est pressenti au poste de président. La vice-présidence devrait être concédée à Jaroslava Jermanová du mouvement ANO et à Pavel Bielobrádek, l'actuel président des chrétiens-démocrates. Toutefois, après la réunion de lundi, ce même Pavel Bielobrádek a déclaré qu'il n'était pas encore certain de la participation de KDU-ČSL à la coalition gouvernementale. Pavel Bielobrádek.
Nous ne sommes évidemment pas sûrs, car tout n'est pas encore négocié. Nous nous trouvons toujours dans une phase de négociation relativement essentielle par rapport au programme final. Les négociations se poursuivront. Et je suis content du fait qu'elles doivent s'intensifier la semaine prochaine et qu'elles seront tripartites.
Les représentants des 3 partis se sont néanmoins mis d'accord sur le fait de soutenir les 4 textes législatifs qui devraient être votés lors de la première séance à la Chambre. Ces textes concernent le Code civil, le financement de la santé et la loi sur les offres publiques. « Ce samedi, les voyageurs de la ligne A du métro pragois ont à nouveau eu l'occasion de faire la connaissance de leurs voisins. Il leur suffit simplement de monter dans le wagon de communication destiné à favoriser les relations entre les passagers. L'idée de départ de la Société des Transports de Prague est intéressante, mais son application est moins évidente. Un sujet de Michaela Mezelakova.
Un silence entrecoupé par des messages sonores annonçant le nom des stations, des personnes collées à leur portable, d'autres regardant dans le vide. Telle était l'image typique du wagon de communication en ce samedi de novembre. Rien de surprenant, l'ambiance n'y diffère en fait pas des autres jours. En réalité, quasiment personne ne sait qu'il se trouve dans un wagon spécial.
J'ai déjà entendu parler du wagon de communication, mais il me semble un petit peu bizarre qu'il se trouve au milieu de la rame. Je crois alors que tout le monde ignore s'il s'agit de ce wagon ou non. Donc je suis ici peut-être par erreur, ce n'était pas mon but.
C'est ce qu'avoue une femme. Une autre voyageuse partage son avis.
Ce wagon devrait être signalé de façon plus visible parce que je suis montée là où il y avait de la place. Alors il faudrait un panneau pour pouvoir l'éviter.
La seule chose informant du projet lancé à la mi-novembre est un tableau dans la halle du métro. Le wagon n'est pas doté de signes distinctifs, il n'y a aucune affiche sur les quais, pas de message sonore. La rame passe inaperçue dans les stations. Et parmi la petite poignée de gens qui sont au courant de l'opération, personne n'envisage d'engager la conversation avec un inconnu. Ils n'en voient tout simplement pas le sens. C'est ce qu'il affirme un passager.
Moi, je n'en ai pas besoin, mais pour certaines personnes, cela pourrait être utile.
En tout cas, la société de transport en commun de la capitale a plutôt raté son coup. La réaction du voyageur se limite à une grande indifférence, à l'exception d'une personne enthousiaste.
J'aime bien cette idée. En fait, moi, je n'utilise pas les transports en commun. Je prends le vélo, mais pour l'hiver, j'ai déjà acheté une carte d'abonnement. Et aujourd'hui, je suis entrée dans ce wagon pour la première fois. Mais de toute façon, cette opération me plaît, surtout pour les étrangers, c'est intéressant. Le week-end dernier, Prague a accueilli pour la 5e fois déjà le festival Croissant au-dessus de Prague, axé sur la culture orientale. La première représentation a été celle de la compagnie française Dominique Houdard et Jeanne Euclin. Radio Prague a eu le plaisir de rencontrer Dominique Houdard, un des meilleurs marionnettistes français et qui connaît déjà bien la République tchèque. Sur la scène du théâtre Na Prádle, dans le quartier de Smíchov, il a présenté à lui seul un spectacle dévoilant les pensées de plusieurs philosophes à travers le temps. Nous nous sommes entretenus sur l'art, la vie et la philosophie, trop fréquemment délaissés par notre vie quotidienne.
Panorama.
Panorama.
Votre spectacle va de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Quelle est la chose, selon vous, qui se répète sans cesse dans la vie ?
Il y a des idées qui reviennent, mais ce qui m'a un peu motivé, c'est l'utilisation que les philosophes font des objets, c'est-à-dire l'objet comme élément de démonstration. Et ce qui a été le déclic pour le spectacle, c'est le pain de cire, le morceau de cire qu'utilise Descartes pour faire une démonstration. Et je me suis dit, les autres philosophes ont dû utiliser des objets comme ça. Alors, en lisant beaucoup de textes, j'en ai trouvé certains qui convenaient à ma démonstration. Et puis d'autres textes qui me plaisaient beaucoup et que j'avais envie de jouer, même si les objets n'étaient pas prévus dans le texte. Alors par exemple, bon, il y a un autre texte de Descartes qui est que je joue avec des objets qui sont dans le spectacle, mais qui n'ont pas finalement autre chose à faire que d'aider à la démonstration. Donc, c'est des textes qui disent beaucoup de choses. à la fois sur le plan de l'écologie ou du bavardage inutile, ou bien des démonstrations sur le jeu du comédien. Ça, c'est quelque chose d'étonnant que j'ai trouvé dans Platon, qui fait une très belle démonstration de ce que c'est que le théâtre en utilisant le principe de l'aimant. L'aimant qui relie le spectateur à l'acteur, au poète. Et c'est cet ensemble-là, enfin moi c'est ce qui me touche dans le spectacle, c'est que tous ces objets, comme les aimants, sont un peu des liens entre auteur, le poète ou le philosophe, le spectateur et l'acteur.
Votre spectacle, il fait beaucoup penser à disons, des spectacles ambulants, un peu médiévaux, avec quelques éléments de magie aussi. Quelles sont vos sources d'inspiration ?
Moi, j'ai souvent utilisé la marionnette dans mes spectacles. Et la marionnette objet, ça m'inspire beaucoup. Enfin, je trouve que l'objet détourné, utilisé autrement que d'une façon traditionnelle, c'est quelque chose qui est très inspirant, à la fois inspiration des surréalistes. Vous connaissez ce tableau célèbre de Magritte, « Ceci n'est pas une pipe », montrant une pipe. Eh bien, moi je dis, « Ceci n'est pas ce que vous voyez, ceci n'est pas un marteau, ceci n'est pas un pot de fleurs, mais il y a des marteaux et il y a des pots de fleurs dans le spectacle. » Et c'est cet état d'esprit qui consiste à poétiser les objets et à poétiser les mots et à poétiser l'espace qui me fait agir. Et alors donc, si vous me parlez du Moyen-Âge, oui, comme les battleurs du Moyen-Âge, j'utilise tous les moyens à ma disposition et je me suis beaucoup attaché à utiliser des petits trucs de magie pour agrémenter un peu le spectacle. Parce que c'est des textes qui sont quelquefois un peu durs, un peu indigestes même. Alors j'essaie de les rendre plus légers en coupant des cordes et en les raccommodant, en faisant apparaître une balle, en faisant différentes petites choses comme ça.
Quel est votre parcours professionnel ?
C'est un long parcours puisque ma compagnie va avoir 50 ans dans quelques mois. J'ai commencé par le masque et la comédie italienne. C'est ça qui m'attirait beaucoup dans le théâtre. Je trouve que le masque est un moyen d'expression extraordinaire. Et petit à petit, j'ai découvert que la marionnette n'était pas ce qu'on en fait habituellement, en tout cas en France. C'est souvent considéré comme un spectacle pour les petits-enfants. À mon avis, c'est une erreur grossière. La marionnette, à l'origine, elle vient d'abord du sacré. Et puis, on la trouve dans les plus grandes civilisations, la japonaise entre autres. Donc, le bunraku japonais, qui est le type de marionnette le japonais le plus raffiné, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, mon parcours, c'est du masque à la marionnette. Et nous nous sommes spécialisés dans la marionnette pour adultes. Donc, je ne monte jamais de spectacle pour enfants. Je laisse ça à d'autres qui le font très bien, mais j'essaie de défendre des textes, des musiques aussi, on a monté des opéras, et j'essaie surtout de mettre la marionnette au service de ces grands textes, de ces grandes musiques. Je pense profondément que la marionnette, c'est l'art premier du théâtre. C'est-à-dire qu'avant le théâtre, il y a eu la marionnette. On dit que c'est les Égyptiens qui ont inventé la marionnette en animant les statues des idoles. Bon, je pense que déjà à l'époque des cavernes, les hommes utilisaient des objets rituels en prenant un bout de bois, en prenant des feuilles, en prenant... Et tout ça devenait marionnette et tout ça était détourné, donc poétisé. Et la poésie a toujours existé chez l'homme et l'utilisation des objets renforce la poésie.
Vous êtes connu des Tchèques pour vos extraterrestres Paddox. Alors, j'étais intrigué pour savoir qui sont les extraterrestres Paddox.
Je pense que le théâtre de rue est quelque chose d'important pour toucher un public qui ne va jamais au théâtre. Quand on joue dans le théâtre, on joue devant un public d'habitués, de gens qui ont déjà un certain niveau culturel. Alors, à un moment de mon existence, je me suis dit, il faut qu'on aille jouer dans la rue. Et on avait une marionnette, un petit personnage de 67 cm de haut, qui jouait dans les théâtres. Et je me suis dit, je vais l'utiliser, mais pas en petit personnage. Je l'ai fait grandir, et on a créé des personnages qui s'appellent Paddox, et qui sont de taille humaine. Et le manipulateur, le comédien, est à l'intérieur. Alors que ça ressemble à des extraterrestres, je veux bien. Enfin, pour moi, c'est des personnages venus d'ailleurs. Et puis, on ne dit pas d'où ils viennent. Nous avons 40 costumes de Paddox. Ce qui fait que quand on est venu à Hradec-Králové, ou quand récemment on était au Canada, à Montréal, on vient avec les costumes, on fait un stage de formation, et on apprend à des apprentis, des comédiens, ou tous les gens qui veulent d'ailleurs, pas forcément des comédiens, à jouer dans ces Paddox. On peut en avoir 40 d'un coup, comme on peut en avoir un peu moins, mais en tout cas c'est une foule de personnages qui envahissent les rues. On l'a beaucoup, beaucoup joué à Hradec-Králové, et c'est devenu un peu la mascotte du festival. On y a été 5 années de suite, parce que le festival avait pris l'habitude d'avoir les Paddox dans les rues, ça faisait une animation qui touchait le public de la ville. On a inventé ce personnage, mais avec lequel on vit des aventures extraordinaires. Par exemple, on a travaillé avec des détenus dans une prison au Brésil, et ensuite en France. Et on avait 40 détenus qui entraient dans les costumes, et avec eux, on allait jouer dans la rue. Alors ça, c'est des aventures humaines très très fortes. Puis on a joué ça dans les quartiers un petit peu difficiles, en France particulièrement. Donc ça crée un lien social.
Pour revenir un peu au spectacle, les objets prennent vie parallèlement aux pensées philosophiques. Comment est née cette idée de spectacle ?
Moi, je raisonne toujours en termes d'objets et en images. Pour moi, la philosophie, c'est quelque chose d'important. Plus je vieillis, plus la philosophie me semble essentielle pour la vie de l'homme. Mais en même temps, je me dis, la philosophie, c'est un peu enfermé dans un langage compliqué. Et beaucoup de gens ne lisent pas la philosophie parce que c'est trop complexe à comprendre. Alors je me dis qu'avec nos images, les images que nous savons faire, parce que moi quand je lis un texte, j'ai immédiatement des images qui me viennent, donc c'est comme ça que la philosophie peut être transmise. Et ce spectacle que vous avez vu, je l'ai joué devant des jeunes, pas des très jeunes bien sûr, mais des jeunes lycéens ou étudiants, qui me disent toujours après, « Ah, si les cours de philosophie était comme ça, il y aura moins de problèmes. » C'est essayer de rendre la philosophie agréable à entendre, facile à entendre aussi. Les profs de philo font un très beau travail, mais quelquefois c'est un peu obscur, quelquefois un peu fermé. Moi, il a fallu que j'attende des années avant de me mettre à lire les philosophes. Quand je l'ai étudié en philo en terminale, ça ne me disait rien. Et puis, tout d'un coup, l'approche de la lecture fait que maintenant, depuis quelques années, je ne lis plus que des philosophes. Parce que c'est une source permanente. Mais chaque fois que je les lis, j'essaie de le traduire en images. Et de me donner un raisonnement, mais imagé. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre aux spectateurs. Je veux transmettre que la philosophie n'est pas un domaine réservé, que la philosophie devrait entrer dans tous les cerveaux, dans toutes les lectures, et qu'il faut l'aborder simplement. Certains philosophes commencent à s'y mettre. Le dernier que j'ai joué, Michel Serres, qu'on peut entendre à la radio sur France Info en France tous les dimanches. C'est un philosophe qui parle à la population d'une façon extrêmement simple et claire. Et ce dernier texte, je le trouve formidable parce que, justement, je n'ai pas besoin de compliquer les choses pour le raconter. Il suffit de jouer les mots. Et donc, il faut aller vers des philosophes comme lui, Michel Serres, qui a écrit un bouquin extraordinaire que je vous conseille de lire. Ça s'appelle « Petite poussette ». Petite poussette, c'est les jeunes actuellement, alors je vais vous raconter un petit peu, qui utilisent leurs pouces pour travailler sur les smartphones. Bon, Alors, poussette, le pouce, voilà. Et lui considère que depuis quelque temps, bon, on avait la tête philosophique dans la tête, et maintenant la tête philosophique est entre les mains. Entre les mains où on va chercher sur Internet des textes, etc. Et compare ça à l'histoire de Saint-Denis. Vous connaissez Saint-Denis, ce saint des premiers siècles à qui on a coupé la tête et qui marchait en tenant sa propre tête. Eh bien, petite poussette, elle tient sa tête dans les mains. Voilà, alors, des philosophes comme ça qui utilisent déjà des images très fortes. J'ai voulu lui rendre hommage en terminant le spectacle par son texte qui est superbe, un peu écologique, en disant que la planète est en train de se détruire. Et les philosophes sont des gens qui nous lancent des alertes, qui nous disent « attention, on est en train de détruire le monde, on est en train de vivre n'importe comment, ressaisissons-nous ». Voilà, mon petit message, c'est « lisez les philosophes, ça peut nous aider ». Parce que la vie politique actuelle dans le monde entier, elle est un peu pourrissante. Et il y a peut-être, on peut regarder un petit peu au-dessus, on peut relever la tête. En ce moment, on regarde un petit peu trop l'économie et pas assez les grands sentiments, les grandes idées. Donc voilà le message philosophique qui peut ressortir du spectacle. En tout cas, je l'espère.
C'est déjà la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce programme et l'ensemble de nos rubriques sur notre site internet www.radio.cz/fr. C'est Denisa Tomanova qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission. À très bientôt, de nouveau à l'écoute de Radio Prague.